Ah non, attends, ça fait des mois que j'ai le même générique, je vais changer quand même. En plus, là, ça fait un mois que je glande, j'ai pas balancé d'épisode, il me faut un truc cool. Genre, série des années 80 sur la 5. Attends, je vais essayer ça. Ouais, super, c'est cool. Allez, je remets au début. Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 114, ici Richard Delhomme. Je suis de retour après mon périple avec Stéphane Brognard sur son projet Gallia 480. Un débrief est d'ailleurs prévu pour la semaine prochaine, vous saurez tout sur cette aventure hors du commun. Et puisque cette aventure était hors du commun, j'ai visiblement un petit peu de mal à revenir à ma routine hebdomadaire. Je ne suis donc pas en mesure de vous présenter le troisième volet de la trilogie Matériel et équipement avec Sébastien Morin. Et c'est bien dommage car nous allions vous révéler la vérité sur le monoplateau et le double plateau. À la place, je recycle l'épisode 35 avec l'incroyable Alex Bourgeonnier qui raconte ses déboires sur la Transcontinental Race et notamment comment arriver à la deuxième place avec les sous-vêtements d'un autre. Alex a réellement un talent de narrateur et nous embarque dans ses aventures comme si on y était. Les 25, 26 et 27 juin prochains, je serai à Nature is Bike à Angers, le premier festival gravel et bikepacking en France, avec de nombreuses épreuves et randonnées, mais également un salon avec de très belles marques présentes, des conférences. Je serai dans l'espace média, prêt à vous rencontrer. Et le vendredi 25, je serai au départ de la Gold, 300 km de gravel entre Arromanches et Angers. Le site de l'événement et toutes les informations utiles sont dans la description de l'épisode, mais également dans la newsletter, elle aussi dans la description. À noter également que je me lance dans la vidéo et le test de matériel grandeur nature. Et je débute avec le test du fameux Niner MCR9, le premier gravel bike tout suspendu. Le lien est... devinez où. Et sans plus attendre, Alex Bourgeonnier.
Allô ?
Allô Alex, tu m'entends ?
Oui, ça va.
Super, bon, de toute façon, on vient de se parler au téléphone, donc c'était pas non plus la méga surprise.
Non, non.
Non, mais par contre, j'ai un vrai souci, c'est qu'on va devoir annuler l'interview.
Ok.
Ouais, parce que en voyant... Ah ben là, ou alors, j'ai mal vu, mais c'est toi ou c'est Amandine qui est, donc ta femme qui est de Calais ?
C'est elle qui est de Calais.
Bon, bah ça va alors. Parce que sinon, ça faisait encore une personne du Nord que j'interviewais et on va se demander si j'ai vraiment un deal. Ça fait beaucoup de ch'tis quand même dans l'émission. Donc voilà, là, je suis un petit peu rassuré quand même.
Ouais, ouais, tout ouais, va bien. Je suis né à Paris, mais je suis originaire du Sud. Donc
Bon, bah ça va, ça va. Ça va, un peu de diversité géographique, ça fait pas de mal parce que finalement, on va finir par croire que le bikepacking, le gravel et tous ces trucs-là, c'est que dans le Nord.
Ah, mais il y a peut-être un truc, hein. Au final, beaucoup de courses partent du Nord. Si on prend la French Divide, si on prend la Transcontinental qui a été longtemps sur la Belgique, il y a peut-être un truc du Nord. Hein. C'est...
Ouais, je pense. Ça doit venir des frites.
C'est peut-être ça.
Ouais, ouais, ouais. Je vois pas d'autre explication.
Pour tenir, il faut bien manger.
Et il faut ça, il faut bien ça, effectivement. Bon, bah, en tout cas, Alex, je suis hyper content de t'avoir par Messenger, j'allais dire au téléphone, mais non. Mm-hmm. Et en fait, il y a tellement de trucs à raconter sur toi que bah, je sais pas par où commencer. Et vu que ce matin, tu t'es inscrit sur Spotzel et que ton nom d'utilisateur, c'est Alex et Amandine, et ben, on va commencer par parler d'amour.
Ouais.
Et puis voilà, on va commencer. Le vélo, comparé à l'amour, le vélo, c'est complètement nul. Donc, on va commencer par ça. Donc, t'es avec Amandine, c'est ça ?
C'est ça. Alors, elle est pas là ce matin, mais...
Non. Ouais,
non, ouais.
Il me semble qu'il y a une histoire un peu particulière avec Amandine, c'est pas ça ?
Oh, bah, l'histoire... Ouais, c'est un...
Une belle histoire, en tout cas.
C'est une belle histoire. En fait, c'est tout simplement une histoire d'amour. Qui me ramène au vélo en fait. C'est une histoire d'amour qui me ramène au vélo. Alors pour autant que le vélo m'éloigne d'Amandine, parce qu'Amandine n'est pas pratiquante du vélo, mais j'ai envie de dire que elle est un peu l'inspiration de mes périples. Donc en fait, Amandine, elle vient de Calais. On s'est rencontrés sur la Haute-Savoie, du côté de Faverges, où on habitait à l'époque l'un l'autre. Et en fait, moi je suis cycliste depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans. Cycliste traditionnel, comme on peut le voir sur le Tour de France, avec des courses en amateur, des courses à un niveau un petit peu plus élevé après, voilà. Et puis à un moment, j'avais fait le tour de la question et je m'ennuyais un petit peu dans ce vélo. Et puis j'ai rencontré Amandine. Et en rencontrant Amandine, c'est devenu une histoire passionnelle entre elle et moi. Et puis la passion en entraînant une autre passion, je me suis retrouvé à on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais je me suis retrouvé à avoir besoin de retourner sur cette passion du vélo. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans des périples à vélo. Voilà comment a démarré notre histoire à la fois d'amour et mon histoire d'amour avec le vélo et l'ultra distance.
Alors, je suis désolé, mais je ne comprends pas, je ne vois pas le rapport. Qu'est-ce qui t'a poussé de... Alors, je suis désolé, je vais être trivial le temps d'un instant. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner sur ton vélo alors que t'aurais très bien pu passer ton temps à rester sur Amandine?
Quelle trivialité, en effet. Enfin, moi, je pense qu'on fonctionne tous différemment, mais moi, je fonctionne comme ça. C'est que j'ai besoin d'avoir un moteur, j'ai besoin d'être passionné, et disons que j'avais besoin de vibrer quand j'étais sur mon vélo. Je sentais que je vibrais à la fois pour elle et que je faisais des choses, je les faisais pour moi, et en même temps je les faisais pour elle, parce que voilà, je me sens, on est quand on est sur le vélo, on est à un moment on devient très fatigué et on est à fleur de peau de tout, et je me sentais d'autant plus amoureux quand j'étais sur le vélo que quand j'étais, enfin, en plus d'être avec elle. Donc il y avait vraiment quelque chose qui était exacerbé là-dedans. Comment l'expliquer, je sais pas. Comme je l'ai dit, on vit pas d'amour à d'eau fraîche, et à un moment faut faire autre chose. Vivre H24 ensemble, c'est une chose. Et à un moment, c'est pas qu'on se lasse un peu, mais c'est que on a besoin d'échappatoire, d'évasion. Et c'est un petit peu ce que j'avais moi dans le vélo. Je suis parti faire un trip, mon premier voyage véritable à vélo en Égypte en 2014. Et j'ai traversé le désert libyen, donc entre la rive ouest du Nil et la Libye. Je suis passé par la route des oasis, j'ai fait 1400 km et je me suis retrouvé bien seul pendant ce voyage, où entre chaque oasis, il pouvait y avoir entre 250 et 400 km à traverser, sans âme qui vive, sans rien du tout. Et là, tout ça, ça exacerbe les sentiments. On était au tout début de notre relation. Ça faisait 2-3 ans qu'on était ensemble avec Amandine. Et là, on se rend compte du besoin de l'autre, du bien-être que l'on a avec l'autre. Et ça pousse à se dépasser. Alors, quel dépassement j'ai eu sur ce genre de périple-là. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais jamais dépassé les 150 à 200 km. Et un jour, je me suis retrouvé, donc, pendant ce périple, avec une distance entre deux oasis de 320 ou 330 km. Et puis bon, moi, j'étais parti. Alors, j'étais avec mes grosses sacoches cavalières sur le côté, que Vincent m'avait prêté d'ailleurs. Et avec 10 litres d'eau, parce que je traversais le désert, etc. Donc j'étais bien lourd, avec un vieux vélo pour pas attiser les envies. Et puis je m'apprêtais pour cette étape-là à faire une nuit en bivouac dans le désert avec ma tente, etc. Et puis je suis parti et j'ai dit bon, Amandine, on n'aura pas de nouvelles parce que je traverse le désert, on n'aura pas de nouvelles pendant au moins 48 heures. Et puis ce jour-là, poussé par les éléments, hein, j'avais un bon vent de dos, Je me suis retrouvé en fait à faire toute l'étape, les 320 km avec mes 10 litres d'eau, avec mon vélo chargé qui devait peser 40 kilos. Le vélo, c'était assez surprenant. Et je me suis retrouvé à faire les 320 km du coup d'une seule traite dans la journée. Et du coup, le soir même, je la recontacte depuis un hôtel, depuis cette fameuse oasis. Et là, elle était complètement surprise de m'entendre et de me dire mais t'as fait autant de kilomètres, c'est pas possible quoi. Je pensais ne pas avoir de nouvelles de toi et tout. Et au final, voilà. Donc en fait, ça a été l'une des premières choses qui ont fait qu'elle m'a poussé d'une certaine façon à me dépasser. Et il y avait de la passion là-dedans. Il y a eu et après, dans toutes mes histoires, il y a plein d'autres passions qui arrivent à la suite de ça.
Bon, eh ben, voilà. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est une très belle histoire, en effet. Si on revenait un petit peu au tout début, donc tu disais que tu courais en amateur. Ça veut dire quoi, amateur? Mm-hmm. Tu courais en FFC, donc je suppose.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais,
donc, en deux, en trois, en une.
Alors, moi, j'ai démarré le vélo. J'avais 14 ans. J'étais 4D1 et j'ai commencé à courir en 4D2. Et quand j'ai démarré le vélo, j'étais plutôt un petit gros. C'est-à-dire que c'était très compliqué pour moi. C'était très compliqué pour moi. Mais toutes mes premières courses, je me faisais lâcher. C'était vraiment vraiment compliqué. Et puis, de fil en aiguille, je me suis accroché. Je me retrouvais derrière le peloton en chasse patate, à m'accrocher. Puis d'un jour, du jour au lendemain, je me suis accroché au peloton. Et puis, j'avais passé toute mon petite expérience à l'époque de vélo à faire du chasse-patate derrière les pelotons, et plutôt que de faire du chasse-patate derrière les pelotons, je me suis échappé et puis je me suis retrouvé devant. Et puis, j'ai fini quatrième de cette course-là après avoir fait une dizaine de courses à me faire lâcher. Et après, de fil en aiguille, j'ai couru en junior, etc. J'ai commencé à gagner quelques courses. À l'époque, c'était régional, puis je suis monté en national, puis ensuite c'est passé en troisième, deuxième, et je suis monté jusqu'en première catégorie. J'ai fait les championnats de France espoir en 2004. J'ai eu des sélections régionales sur toutes les manches du challenge national quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai fait des courses à l'étranger, en Italie, etc. Donc j'avais un bon petit niveau jusqu'en première catégorie.
D'accord, donc un bon moteur, on va dire, malgré que tu sois un petit gros, mais bon.
Voilà, disons qu'il a fallu travailler pour l'avoir, le moteur.
Ouais, et puis se faire larguer sur les 10 premières courses quand t'es cadet, ça, c'est pas une question de capacité physique, ça veut surtout dire que tu savais pas courir et que, tu savais pas te positionner dans un peloton.
Et quand j'ai tendance à arrêter souvent le vélo et puis ça me ramène à mes débuts. Quand je reprends, j'ai l'impression d'être asthmatique, je reprends du poids énormément. Enfin, ça me ramène à ma condition de simple être humain. Voilà.
De simple humain chiant qui fait pas de vélo, en fait.
Exactement.
On sait tous que ça. Le vélo nous rend beaucoup plus séduisant.
Ah bah oui, 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 oui.
Surtout en maillot de bain.
C'est ça, avec les belles marques qui vont bien.
Oh là 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 là, bah ça avec l'âge, on n'en a plus rien à faire.
Non, ouais.
T'as quel âge du coup?
Du coup, j'ai 34 ans.
Ouais, ok.
J'ai 34 ans.
Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite de ça? Alors, il y a eu les courses, Amandine, l'Égypte. Comment tu t'es dit, tiens, je vais partir en Égypte? Et pourquoi l'Égypte? Et pourquoi la Libye? Parce que il n'y avait pas encore eu les événements Libye à ce moment-là.
Non. Ouais.
Mais quand même. Ou attends, si, peut-être que c'était passé du coup.
Alors moi, je suis parti donc en 2014. C'était juste après la révolution égyptienne. Il y a eu un coup d'État. C'était juste avant l'accession au pouvoir du général Al-Sisi. Je me souviens à l'époque. Pourquoi l'Égypte? Parce qu'en fait, j'étais parti en voyage là-bas comme un touriste lambda à faire une croisière sur le Nil en 2007 ou 2008. Et puis j'avais un goût d'inachevé dans ce voyage-là, j'avais trouvé le pays magnifique, super beau, avec des gens adorables et tout. Et puis je m'étais dit, ouais, mais cette forme de voyage-là, ça me correspond pas, c'est pas moi ça. Je veux vraiment aller découvrir le pays, mais de l'intérieur. Et du coup, je m'étais dit à l'époque, bah, j'y retournerai, mais j'y retournerai à ma façon. Et puis, bah, du coup, en 2014, j'y suis retourné à ma façon. Voilà, en prenant mon vélo, un billet d'avion, t'atterris au Caire, et puis en avant, tu te débrouilles. Mmh. Voilà. C'est ce voyage-là. Alors, j'avais fait d'autres petits voyages en vélo en France. Hein. J'étais monté en Normandie. J'avais fait la route des Grandes Alpes avec une charrette à l'arrière. Ouais, j'avais fait le Vercors, j'avais fait la Corse avec ma petite à l'époque, et on avait mis la petite dans la charrette.
Ah oui, parce que tu me disais une charrette, je me demandais dans les Alpes, je me demandais si tu transportais du foin.
Oh bah ça aurait pu être pas mal, hein. Ça aurait lié l'utile à l'agréable. Non bah ouais, j'avais fait un voyage avec ma fille en Corse sur la côte ouest. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trouver en fait du plaisir à faire du vélo autrement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ça.
Ça veut dire quoi le vélo autrement ? Ça veut dire que tu ne trouvais plus ton compte dans les courses sur route ?
Ouais, en fait, tourner en rond, tu tournes en rond une fois, tu tournes en rond deux fois, ça devient très vite lassant. Alors c'est lassant, mais en même temps. Il y a une adrénaline de se retrouver au départ, de remettre un dossard, ça me plaît. J'ai cet esprit compétition, j'ai cet esprit là. Mais comment dire, ouais, on a vite fait le tour. Je me suis rendu compte. Alors c'est l'expérience qui a fait ça, et en analysant un peu en prenant un peu de recul sur les compétitions que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que j'ai le plaisir de prendre part à une compétition, je suis performant sur une compétition, mais je pense pas avoir l'âme compétiteur. C'est assez paradoxal, hein, quand on sait ce que j'ai fait sur les différentes transcontinentales et autres. Éventuellement on y reviendra, mais c'est pas mon moteur. La gagne, ça me tient pas. Donc en fait, il faut que je trouve. Et j'ai trouvé, et je l'ai compris, la raison pour laquelle je fais ça. Je me retrouve plus facilement dans la découverte, dans l'échange, dans le partage, dans un dépassement personnel et pas de compétition, d'adversité. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'au final, le voyage à vélo en lui-même, de base, je m'y reconnaissais beaucoup plus. Le fait de partir d'un point A et aller jusqu'à un point B. J'ai horreur de faire demi-tour, par exemple, je vais m'entraîner, je fais jamais un aller et un retour. Je fais toujours une boucle où j'essaye toujours de... J'adore aller d'un point A à un point B, voilà.
Qu'est-ce qui t'a mené à la transcontinentale ?
Vincent.
Ah, oh, encore lui.
C'est Vincent.
Alors, lui aussi, il va falloir que j'y emmène des chocolats parce que.
Eh ben, en fait, pour la petite histoire, Vincent, on se connaît depuis un petit moment. En fait, on travaillait dans le même magasin de vélo. À l'époque, ça s'appelait Véloland sur Annecy. Et puis ensuite, c'est devenu des vélos. On avait toujours bien sympathisé. Et à la suite de ce voyage en Égypte, quand je suis rentré, il me dit mais c'est énorme ce que t'as fait, ce fameux 300 km. Il y a une course qui s'appelle la Transcontinental Race. Ce serait bien que tu t'y inscrives. Ça pourrait être bien, t'es compétiteur et tout, ça te correspondrait bien. À l'époque, la Transcontinentale, elle avait déjà eu deux éditions, il n'y avait pas eu beaucoup de participants pour les deux premières. Il y avait Samuel Bécouf qui avait participé à la première, et puis à la deuxième, ou la première, je ne sais même plus. Et puis Vincent m'avait dit, pourquoi tu ne ferais pas ça ? Ça, on était au mois de mars. Moi, après mes mes périples à vélo, j'ai tendance à poser le vélo et puis lui dire bon bah à la semaine prochaine ou à la prochaine fois quoi. Et je suis resté pendant 6 mois sans toucher au vélo. Et puis je suis remonté. Et puis en fait au mois de septembre octobre, je me suis dit tiens ouais, cette transcontinentale, elle était passée durant l'été. J'avais regardé ça et puis je me suis dit bah allez, on va écouter Vincent, on va voir ce que ça peut donner et puis je me suis inscrit. Et puis c'était parti, l'aventure était lancée.
Et donc
j'ai pris le départ en juillet 2015 sur la transcontinentale. Alors je savais pas comment on pouvait se préparer à un truc comme ça, j'avais aucune idée de comment ça pouvait se gérer, ni même en termes de kilomètres, que en termes de durée, que en termes de gestion, que tout ça. Et je me suis lancé un peu la fleur au fusil dans la transcontinentale. La fleur au fusil, mais en même temps je m'étais quand même bien préparé. J'avais fait appel à un coach. En la personne de Sylvain Péréal, qui bosse pour WTS Coaching.
Ouais.
Et du coup, je lui avais présenté le projet de cette transcontinentale. Et puis bon, pendant un an, il m'a préparé physiquement à cette transcontinentale. Alors, il m'a préparé physiquement et puis moi, je suis allé chercher moralement, enfin, comprendre comment ça se passait au fur et à mesure de mes périples. J'ai fait des BRM pour préparer ça. Alors, on attaque par un BRM 200, tu fais le BRM 200. Alors comme j'ai une capacité à rouler fort, bah tu fais un BRM 200 à 31 km/h de moyenne, mais t'es rincé, tu te dis oh punaise, il va falloir en faire plus encore. Et puis de 200, tu passes à 300, et puis de 300, t'enchaînes un week-end où tu fais 600, et puis d'un coup tu fais 800, et puis à chaque fois tu te prends des claques. Parce que j'avais tellement la capacité à rouler fort que ça me paraissait normal de rouler, de descendre dans le sud à 35 km/h pendant 500 km. Sauf qu'au 501e kilomètre, tu te prends la rouste de ta vie, tu tournes à gauche, tu te prends un vent de face et puis là c'est game over, tu te retrouves à 20 km/h sur le plat et encore. Et tu te dis mais c'est pas possible, faut que je remonte jusqu'à la maison. Et tous les petit challenge que je m'étais fixé avant de participer à cette transcontinentale, mes longs week-ends, je rentrais mais complètement rincé, au point de même pas pouvoir rentrer à la maison. Je rentrais en train, c'est pour dire. Et là tu as une grosse remise en question à un mois du départ. Tu te dis mais je pars pour 4000 km et je suis pas capable d'en faire 800. Il y a un problème là. Est-ce que t'es bien dans le bon truc? Et du coup, c'est des remises en question. C'est ok, t'es prêt parce que t'es quand même capable de tenir 500 bornes à 35 km/h. Donc c'est que physiquement t'es prêt. Est-ce que mentalement t'es prêt? Oui, tu l'es parce que enfin t'as déjà prouvé que t'étais capable de repousser tes limites. Sauf qu'il y a des trucs à comprendre. Donc en fait, il a fallu que je comprenne qu'il fallait que je lève le pied encore plus que ce que je pensais le faire. Et après c'est de l'autogestion, tu pars avec des choses que tu comprends au fur et à mesure, voilà. Que moi après on en revient à parler de la transcontinentale, mais c'est vrai que ça a été un petit peu ma grosse découverte. Donc là on arrive sur le départ de la transcontinentale, je sais plus quelle date c'était vers le 25 juillet, un truc comme ça. Et puis là, on a tous un tracker. On a le briefing. Je rencontre Mike Hall. Je parle légèrement anglais à l'époque, mais je comprends pas forcément tout. Et puis Mike qui avait fait un briefing en anglais, un briefing en allemand, etc. avait expliqué qu'il allait faire un briefing en français. Et au final, le briefing en français ne se fait pas. Et puis moi, je reste les yeux écarquillés face à un anglais mal maîtrisé. Et puis à la fin il vient me voir et il me fait c'est bon, you understand everything, yes, mais j'avais pas forcément tout compris, mais bon, ce que j'avais compris c'est que je partais dans un truc un peu fou. Et puis au final les claques que je m'étais pris sur mes premiers périples font que je passe mes premières 24 heures très prudent. Je pense que la première nuit, je suis aux alentours de la 50e, 60e position. Je regarde le tracker régulièrement. Je me fie à ce que j'avais préparé avant, c'est-à-dire que j'avais bien préparé ma carte. Et je me dis reste sur ta trace. Les autres vont pas forcément au même endroit que toi, mais bon. t'as fait ton parcours, c'est que ça doit être pas si mauvais que ça, on verra bien. Et puis je pars, et puis je roule. Et le soir même, bah au final, je me retrouve en deuxième position à rouler avec Josh Hibbett, qui au final sera le futur vainqueur de la Transcontinentale. Et je me dis, bah t'es pas si mal que ça. T'as fait, on arrive ensemble dans Dijon, donc depuis Gramont, hein, au premier soir. Donc on avait déjà fait une belle bambée, quoi. Et puis moi, j'avais prévu de m'arrêter tôt. Parce que pour moi, j'avais pas forcément la notion de rouler tard la nuit et puis de rouler toute la nuit. Je suis un gros dormeur et je m'étais dit bon bah maintenant il faut que je dorme parce que je suis fatigué, donc je vais dormir. Puis je m'arrête dans un hôtel après Dijon et puis il doit être 8h30, un truc comme ça le soir, donc en plein été. C'est pas tard, quoi. et tout le monde continue à rouler. Et puis je dis bon bah moi je repartirai sur les coups de 1h ou 2h du matin après m'être reposé. Sauf que j'ai dormi et j'ai tellement bien dormi que à 3-4h du matin je fais oh merde, je suis pas reparti. Et du coup je repars en trombe et tout, je fais oh mince, première nuit où je dois rouler, c'est déjà loin et tout. Bon bah allez, je repars. Et puis je roule, et puis il fallait que je recharge mon GPS. Et je branche mon GPS et je roule en direction de Bourg-en-Bresse. Et je me dis, mais mince, mais ça charge pas, il se passe quoi? J'avais toujours de la lumière, mais ça chargeait pas. Et je m'arrête, je rebidule mon système de chargement que j'avais fait moi-même, donc avec ma dynamo, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ça chargeait toujours pas. Je sais pas ce qui s'était passé. J'avais pris un e-work pour le transformateur. Et je comprenais pas. Et puis je dis, mais je suis obligé de continuer quand même. Je suis obligé de continuer. Et puis il y avait rien qui chargeait. Et à un moment, plus de GPS. J'arrive à Bourg-en-Bresse. C'est le petit matin. Il commence à faire jour. Et je me dis, mais mince, mais j'ai plus de GPS. Mais j'ai plus rien. Et puis alors là, comme t'es quand même fatigué, puis t'as quand même fait pas mal de kilomètres. T'as fait une nuit, mais comme t'as pas d'expérience, bah pour toi elle est quand même beaucoup plus courte que d'habitude la nuit, donc voilà. Et arrivé sur les coups de 6h du matin, je m'allonge au bord d'une salle des fêtes et je suis complètement éreinté, complètement dépité parce que j'ai plus de GPS, j'ai plus rien, j'ai plus de quoi recharger. Je me dis mais comment tu vas faire pour aller jusqu'en Turquie sans GPS, sans rien, c'est pas possible. Et puis je m'arrête et tout. Puis je reste quoi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à dormir. Je regardais même plus le tracker GPS pour savoir où j'en étais. Pour moi, j'étais loin, c'était fini, la course était finie. Et puis basta. Et puis il y a des gens qui arrivent sur le bord de la route. Un couple de Ambérieu-en-Bugey qui eux suivaient les trackers et qui me voyaient ne voyant ne plus bouger, ils se sont dit bah tiens on va aller voir un participant de la Transcontinentale. Et puis ils me font Alex. Puis moi je lève la tête comme ça. Je fais oui, c'est moi. Et puis ils me disent ils m'expliquent qu'ils sont de Ambérieu-en-Bugey, etc. Et puis je leur explique que moi mes déboires, que j'ai plus de GPS, que j'ai plus rien, que ça va être compliqué. Et puis ils me regardent, ils me font mais t'es pas mal placé, il y a pas de solution pour ton GPS, etc. Et tout. Puis je regarde, en effet, j'étais pas mal placé, j'étais toujours dans le top 10 malgré mes arrêts longs. Et puis je fais ouais mais c'est vrai au final, et puis il y a des gens qui suivent et puis ceci et puis cela, et puis moi j'avais pris l'option de faire des reconnaissances au moins jusqu'au deuxième checkpoint dans mes périples passés, donc j'étais allé jusqu'à la Strada della Sieta, donc je connaissais le parcours par cœur pour y aller depuis le sud de Bourg-en-Bresse. Et tout d'un coup, ça me remotive et je me dis, mais non, mais tu peux pas abandonner là, tu vas trouver une solution, voilà, tu connais la route jusqu'à l'Italie, y a pas de souci. Et puis, avant de partir, je m'étais dit, au cas où, j'avais pris le parti aussi de noter toutes les villes que je traversais, sur un bout de papier. Donc, je m'étais fait un parcours, une sorte de roadbook, mais avec juste le nom des villes et puis les routes principales. Sur des bouts de papier que j'avais plastifié. Donc je me dis au pire voilà t'as le nom des villes. Et du coup, je repars motivé et je me dis, allez, tu verras bien, on continue. Et puis au final, je roule à l'aveugle, sans GPS, jusqu'au premier checkpoint qui était au Mont Ventoux. Et puis au final, bon bah, je me perds un petit peu dans les contreforts du Mont Ventoux parce que j'avais pris des petites routes, ça serpente un petit peu. Et j'arrive au Mont Ventoux le soir même. Au final, j'arrive en cinquième position au Ventoux, un truc comme ça. Donc plutôt pas mal placé. Et puis je monte le Ventoux de nuit. J'avais des potes qui m'attendaient au pied du Ventoux, donc ça remotive encore une fois. Tu te rends compte que t'es tout seul dans une aventure, mais que t'es finalement pas si seul. Et puis je roule, je monte le Ventoux donc du coup de nuit. J'arrive au sommet. Michael qui était là pour attendre les différents participants. Il me fait une petite interview au sommet dans son van et tout. Et puis je me rends compte qu'en fait j'avais intégré ce qu'était l'aventure, quoi. Même si je maîtrisais pas forcément tous les éléments, j'avais compris dans quoi j'étais. Et au final, j'avais passé le fameux cap que j'avais pas réussi à franchir durant mes différents tests. J'avais passé 48 heures à enchaîner du vélo, 400, 500, j'avais passé les 1000 kilomètres. Et là, tu te dis, ouais, finalement, ça se fait, quoi. Ça se fait. Et puis de fil en aiguille, l'aventure s'est continuée comme ça. J'ai jamais trouvé de solution pour mon GPS. Donc, au final, je m'arrêtais régulièrement, soit sur les checkpoints, ou soit dans des restaurants où je rechargeais brièvement mon GPS pour prendre 20-30%. Et au final, j'allumais mon GPS dans les traversées de ville qui étaient compliquées, parce que autant il y a des panneaux à chaque sortie de ville qui t'indiquent la ville d'après, que quand tu traverses une ville, c'est compliqué de savoir où tu vas. Donc au final, j'ai fait avec mes bouts de papier plastifiés et j'ai continué comme ça. Voilà. c'est un des éléments de mon aventure sur la transcontinentale.
Dis-moi, Alex, est-ce que tu, à tout hasard, est-ce que tu oserais te moquer de moi ?
Je peux, oui, mais enfin, c'est pas dans mon.
Non,
dans
je veux dire, là, dis-moi. Tu viens de me raconter ta première TCR. Est-ce que tu te fous de moi ? Est-ce que tu te fous de nous, franchement ? Parce que je vais la faire courte. Le gars nous dit, je me suis pointé à la TCR, la fleur au fusil. Mais depuis 20 minutes que tu parles, on découvre que tu t'es préparé comme un bâtard, que tu avais repéré, tu avais fait des repérages, que tu avais le nom des villes sur un petit papier plastifié, alerte maniaque. Non, tu te fous de nous là, parce que
c'est la vérité.
Tu avais quand même bien préparé ta petite affaire quand même, ou alors tu t'en rends pas compte.
J'avais pallié, je m'étais dit, si mon GPS plante, qu'est-ce que je fais ? Donc j'avais pallié le fait que mon GPS plante. J'avais pas pallié le fait que ça viendrait de mon système de rechargement. En fait, au final, je saurais que c'est le plus tard en démontant que c'est le e-work qui avait la bobine qui avait pété. Et puis en me posant un peu sur le matériel, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à avoir eu ce problème-là. Les e-work ont planté sur plein de personnes. Donc je saurais que c'est ça. Mais je m'étais dit voilà, au cas où. Au moins prépare ça, tu sauras au moins le nom des villes. Voilà, donc j'avais préparé mon truc comme ça. Voilà.
Et au final, sur cette épreuve, sur cette édition, tu as terminé à quelle place ?
Donc j'ai fini en deuxième position de cette transcontinentale. Après plein de péripéties, parce que j'en ai eu d'autres.
Eh bien raconte. nous n'attendons que ça.
Sur cette transcontinentale, alors j'ai eu les fesses en sang, mais en sang, à ne pas pouvoir m'asseoir. J'ai traversé l'Italie en danseuse, une grosse partie de l'Italie en danseuse entre Turin et Vérone. Toute l'étape, je l'ai faite en danseuse. Alors pour tenir en danseuse en statique sur les jambes, c'est compliqué. Je mettais tout à droite au niveau du braquet et puis pédaler les mains en bas du guidon, et puis ça a été l'une des journées les pires de toute mon existence vélo. Je pouvais plus m'asseoir, c'était horrible. Mais quand je retire le cuissard le soir, où je m'étais une nouvelle fois arrêté très tôt sur les coups de 8 heures sur les coups de 8 heures. Je retire le cuissard, je le décolle carrément des fesses. Du coup, là, je me dis, oula, ça va être compliqué. Donc, j'avais, à l'époque, j'utilisais de la crème cuissard à sauce. J'avais badigeonné de crème de cuissard à sauce. Et puis, j'avais passé la nuit les fesses à l'air dans la chambre d'hôtel en espérant que ça croûte un petit peu, etc. Et puis le lendemain, je suis reparti. Tu te rappuies un petit peu fort. C'est dur, c'est difficile les premiers kilomètres. Et puis puis t'appuies un petit peu plus fort sur la selle. Donc au final, ça endort un petit peu l'assise. Et puis au final, derrière ça, j'ai fait une journée de dingue parce que Ultan Coyle, qui me suivait de très très près, s'est retrouvé très très loin. J'ai fait une journée où j'ai fait un peu plus de 450 km jusqu'en Slovénie, même jusqu'à la frontière de la Croatie. Et puis ce soir-là, j'ai dormi sous un porche de balcon, sous un balcon qui dépassait. Je me suis mis sous le balcon d'un immeuble. J'ai dormi là-dessous. Ça sentait le chien. Je pense qu'il y avait des chiens qui avaient dû dormir là-dessous pendant un certain temps. Et du coup, ça sentait le chien. Mais voilà, je devais dormir à l'abri parce que cette nuit-là, il pleuvait. Et puis le lendemain matin, je suis reparti complètement défait d'une nuit où tu dors mal, parce que comme j'avais pas d'expérience, j'étais parti sans matelas, sans rien. J'étais juste parti avec un sursac de couchage. Même pas le sac de couchage, juste le sursac de couchage. Je m'étais dit, bon, je vois. Ce qui se passe, c'est que quand j'étais arrivé au départ de la transcontinentale, j'avais vu tout le monde peu chargé. Et puis moi, j'étais avec tout mon barda. Je m'étais dit, mais ils sont super light tous. Et moi, j'ai tout ça, je peux pas partir avec tout ça, c'est pas possible. Du coup, je dis à Amandine, qui était venue avec moi au départ. Ah tiens, je te laisse ça. Et au final, il me restait plus grand chose, donc j'étais parti qu'avec le sursac de couchage. Et du coup, j'avais dormi dans mon sursac de couchage sous ce fameux porche d'immeuble. Et puis je repars le lendemain matin sous la pluie et tout, un peu transit froid. Et puis en Slovénie, tout d'un coup, sur les coups de 7-8 heures du matin, un gars sur le bord de la route sous son parapluie qui me fait « Go Alexander, go Alexander, go, go !» Et là, t'es complètement transi, tu fais « Punaise, mais même là, il y a du monde, t'es pas tout seul, quoi !» Et du coup, tu retrouves c'est à nouveau de la motivation, c'est une journée où tu vas encore avoir de la motivation, te dire « Voilà, je suis pas tout seul, je roule, et puis ce soir-là, j'arrive au checkpoint 3 à Vukovar et puis là j'avais les pieds avec des crevasses parce que j'avais roulé toute la journée. Il y avait Anna qui était là, il y avait toute l'organisation qui était là. Il y a une photo d'ailleurs qui avait été prise de mes pieds et puis de moi en peignoir dans ce hall d'hôtel. Et puis je vais repartir, voilà. Pour une nuit, pour une nouvelle journée le lendemain. Et nouvelle journée le lendemain, nouvelle péripétie, toujours avec mon GPS qui était planté, mais ça sera jusqu'au bout. Nouvelle péripétie, je me prends un orage en Bosnie. Je me prends un orage en Bosnie et j'étais parti super affûté. Alors grâce ou à cause de mon entraînement avec Sylvain. Sylvain Périal et au final j'avais déjà la peau sur les os et je me retrouve par 10 degrés à être grelottant. Je me dis mais là je peux pas continuer, c'est pas possible, j'ai trop froid. Et je m'arrête dans un sort de troquet en plein milieu de la Bosnie, en pleine forêt, dans un tout petit village. Et je me dans ce troquet ils font des pitas, des sortes de souffler à la viande, etc. Et puis ils font ça dans une sorte de cheminée ou feu de bois, un truc comme ça. Et puis je reste là à côté de ce truc là en train de me réchauffer et tout. Le gars il parle le bosniaque ou je sais trop quelle langue. Donc il voit que j'ai froid et il me laisse rester au chaud. Et puis moi j'arrive pas à repartir, j'ai trop froid. Il me file 2-3 pitas, je mange en même temps que je me réchauffe, etc. Je reste 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au bout d'un moment, il comprend que je suis français. Et puis, il y a du monde qui travaille dans ce troquet-là. Et puis ils comprennent que je suis français, et puis ils appellent finalement les responsables de ce troquet. Il y avait des patrons, et en fait les patrons étaient français. Un peu, ça c'est le genre de truc, c'est juste incroyable quoi. Je suis en Bosnie, en plein milieu de la Bosnie, je traverse des forêts. Il y a 2-3 villages. Le village, il devait faire quoi? Et s'il y avait 100 habitants, c'est le bout du monde. Et je m'arrête dans le seul troquet où il y a des Français, quoi. Et du coup, les Français arrivent et ils me parlent français et ils me disent, mais viens. Au final, ils m'amènent chez eux. Ils m'offrent une bonne soupe, ils m'offrent des vêtements secs, et puis ils m'offrent un lit, et je me retrouve à dormir, à me reposer dans ce lit après avoir mangé une soupe et avec des vêtements secs dans leur lit. Et il devait être 14 ou 15 heures de l'après-midi, et puis je dors, etc. Et à un moment, je me réveille, je me dis, là, t'es quand même dans une course, garçon, hein, ce serait quand même bien d'avancer. Je regarde le tracker, et en effet, à ce moment-là, j'étais en troisième position, donc il y avait Josh et James qui étaient devant, James Hayden. Et je me dis, mais là, je vais perdre ma troisième position parce que j'ai froid ou parce que je prends mes aises, quoi. Donc tu vois, je me la joue un peu à l'aise. Et je me dis, bah là, il faut repartir parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient peut-être 5-6 kilomètres derrière les 2-3 autres qui étaient sur mes talons. Et je repars. Et je repars avec leurs vêtements, mais je repars pas avec mes vêtements de vélo qui étaient trempés. Je reste en survêtements sur mon vélo. Je remets mes chaussures et je reste avec le survêtement sec. Et un slip kangourou. Il m'avait filé un slip kangourou. Alors, il a une anecdote, ce slip kangourou, parce que le lendemain, en fait, ce slip kangourou va me soigner mes fesses avec le coton et tout, ça va me soigner mes fesses, ça va être sec, etc. Donc, ça va me faire du bien. Donc, je repars avec ce slip kangourou et puis, culpabilisant de m'être arrêté en pleine journée alors que je suis performant la journée, je m'en rends compte que je suis performant la journée, je suis pas en troisième position par hasard. C'est grâce justement au fait que je sois efficace sur le vélo. Culpabilisant, je me dis, cette nuit, tu fais une nuit blanche. Cette nuit, tu roules, tu refais ton retard. Et du coup, je passe Sarajevo. La pluie s'était arrêtée, mais c'était dans la brume, etc. Je passe Sarajevo. Je passe d'autres bleds qui m'emmènent au final à monter des côtes dans la montagne bosnaque. Et je monte, mais la fatigue me rattrapant, encore une fois, je suis obligé de m'arrêter une ou deux fois pour faire des petites pauses de 5-10 minutes de sommeil. Mais je me force à repartir et je suis toujours en survêtement et je traverse la montagne bosniaque comme ça. Et puis au petit matin, je passe la frontière du Monténégro. Et je me dis, bon, là, il va falloir quand même que tu manges quelque chose parce que t'as rien mangé depuis Sarajevo. Et puis j'avais dû faire, quoi, peut-être 200-250 kilomètres depuis Sarajevo. Et surtout, j'avais fait un beau break puisque les autres s'étaient arrêtés. Et s'étant pas arrêtés la journée et puis poussant fort la nuit, j'avais fait un beau break durant cette nuit-là. Et pas mal de kilomètres, mais il me restait quoi, 60-70 kilomètres pour arriver dans la baie de Kotor et arriver au Mount Lofsen, qui était le quatrième checkpoint. Et du coup, je me dis, il faut vraiment que tu manges à la frontière. Et je m'arrête dans une station-service, j'essaye de passer ma carte pour m'acheter à manger. Ça passait pas, il y avait rien qui passait. Je fais, merde alors, qu'est-ce que je vais faire? En même temps, ça passe pas, qu'est-ce que tu veux faire? Faut continuer, faut avancer, tu mangeras plus loin. Et tu boiras plus loin. Et puis je pousse, et puis la journée avance. Et un peu plus loin, je passe la frontière et il y a un couple qui m'avait certainement vu avoir ma carte refusée à la frontière, et je m'étais arrêté au moment de m'acheter à manger, puis je m'étais arrêté pour me déshabiller parce qu'il commençait à faire chaud. Et puis au final, ils m'ont offert un bout de sandwich à manger. Voilà. sorti de nulle part. Ils m'ont filé un bout de sandwich. Donc au final, ça m'a permis de continuer, mais je commençais à avoir soif, etc. Donc je roule. Et vers midi, une heure, j'avais vraiment faim et soif. Et je commence à arriver dans la baie de Kotor. Et sur mon parcours, j'avais vu un moyen de contourner une grosse descente dans la baie de Kotor. Et je descends donc par une toute petite route sinueuse et tout, mais qui me faisait gagner une bonne quinzaine, une vingtaine de kilomètres. Donc je descends, mais j'étais plus lucide parce qu'il me fallait de l'eau, il me fallait manger. Et au final, à un kilomètre de la fin de la descente, je me suis pris une grosse gamelle dans un virage. Je me suis retrouvé à terre et là, à moitié déshydraté, commençant à être, à perdre en lucidité, je me retrouve à être là sur le bord de la route. Ah mon Dieu. les gens me regardent et tout. je pète à moitié les plombs. Bon, au final, je remonte sur mon vélo, 500 mètres plus loin, il y avait une supérette, et puis je m'achète à manger, et puis je me retrouve à 1h de l'après-midi, sur les requinqués, sur les bords de la baie de Kotor, le coup de la hanche, avec une grosse pizza. Il n'y avait rien de cassé, c'était juste des pizzas, mais bon, ça piquait quand même. Je me retrouve en sang, à arriver sur le pied du Mount Lofshen, et puis j'attaque le Mount Lofshen. Dans la montée du Mount Lofshen, il y a les médias suiveurs qui arrivent et qui me font savoir que je suis en deuxième position. Et là, pour moi, je fais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis en deuxième position? Ok, j'ai poussé la nuit, mais c'est pas possible. Ils avaient une belle avance, tous les deux. Ils se tiraient la bourre, mais ils avaient facile 300-400 kilomètres devant moi. C'était pas possible que je sois en deuxième position. Et il m'explique qu'en fait, James Hayden souffre du syndrome d'un syndrome au niveau de la nuque, charm neck ou un truc dans le genre. Et il a la nuque qui est lâchée et il est obligé de scratcher. Et du coup, je me retrouve en deuxième position suite au scratch de James Hayden. Et puis, donc je m'arrête au sommet, je m'arrête au restaurant, je mange un morceau. Je suis quelqu'un d'assez émotif, donc tout de suite les larmes aux yeux qui coulent, et puis je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose, quoi. C'est ma première transcontinentale, c'est ma première aventure, mais il m'arrive toutes les péripéties du monde, mais à chaque péripétie, il y a un truc qui m'arrive de bien et du coup, ça me pousse à continuer. Et j'ai plus de GPS, mais j'ai mes bouts de papier. J'ai eu froid, mais j'ai eu des gens qui m'ont au final permis de me réchauffer. J'ai eu faim, mais au final, j'ai réussi à avoir à manger. Bref, il se passe toujours quelque chose de positif. Et du coup, je repars. Et puis, ce soir-là, à nouveau pris par la fatigue, je dois m'arrêter et je m'apprête à dormir au bord de la route à chercher. Il y avait les chiens qui commençaient à aboyer aux alentours. Je passe la frontière de l'Albanie et je m'apprête à me coucher dans l'herbe. Et tout d'un coup, de l'autre côté de la route, il y a un gars qui me voit. Et qui me fait, en anglais encore une fois, vous pouvez pas vous arrêter là, c'est dangereux, il y a les chiens qui peuvent être agressifs et tout. Je fais mais moi il faut que je dorme quoi, j'ai besoin de dormir. Et du coup il me dit mais venez. Et au final c'était le patron d'un restaurant et le restaurant était fermé ce soir-là et il m'a mis un lit de camp dans le restaurant. Et je me suis installé dans ce restaurant, à dormir dans le restaurant. Et je me suis, il est parti, il m'a laissé le restaurant pour moi tout seul, et je me suis retrouvé tout seul dans le restaurant, dans ce lit de camp. Et j'ai à nouveau eu l'aide insoupçonnée et inimaginable de quelqu'un. C'était assez incroyable. Le lendemain matin, je me réveille, le jour se lève, et puis je me dis, il faut repartir, c'est une journée de plus, c'est reparti, t'es toujours en deuxième position. dans la nuit, James Hayden était reparti, il avait tenté de repartir, il était redescendu sur Podgorica, et malgré qu'il ait eu tenté de repartir, il scratchera définitivement à Podgorica. Et ce matin-là, dans ce restaurant, je découvre un petit peu l'atmosphère qu'il y a autour de moi, parce qu'il faisait nuit, je voyais rien, et je me retrouve toujours avec ce fameux slip kangourou que j'ai gardé sur moi. Et je me retrouve en slip kangourou face à des miroirs. Et le miroir, je prends conscience de mon état. Et là, j'ai franchement peur. Il y a eu des photos que j'avais publiées sur ma page Facebook où on me voit face à ce miroir et j'ai l'impression d'être sorti d'Auschwitz. La peau sur les os, vraiment entre les côtes creusées, les lèvres qui claquent par le soleil, mon coude et mon bras en sang et tout. Et là, j'ai vraiment peur. Et j'envoie d'ailleurs un message à un pote et je lui dis waouh, je suis allé loin là dans la souffrance. Et je continue mon tour dans le restaurant et il y avait une balance. Alors je sais pas pourquoi elle était là, etc. Mais et du coup ce jour-là, je me pèse sur cette balance et je suis descendu à 55 kilos alors que j'étais parti, je faisais 62 kilos. J'avais perdu 7 kilos en l'espace en moins de 10 jours puisque là je suis en Albanie, il me reste encore pas mal de kilomètres pour aller jusqu'en Turquie. Et là je me dis oula, là tu t'es fait mal. Et à partir de là, je rentre dans une autre dimension, de l'aventure. Je prends conscience de mon état. Mais je lâche pas. Je continue et je repars et j'avance. Je quitte l'Albanie, je rentre en Macédoine. En Macédoine, je pète un rayon, la roue en 8, j'ouvre les mâchoires de frein. Bon, tant bien que mal, ça touche pas. Je continue à avancer. Et avec la roue arrière qui est complètement voilée, et j'avance, et puis je quitte la Macédoine et puis je rentre en direction de la Bulgarie, je rentre en Bulgarie et puis je continue, et puis j'arrive finalement à peu près 400-500 kilomètres de Istanbul. Je m'arrête en pleine nuit sur un banc, je dors sur ce banc dans une petite ville dont je connais plus le nom. Et puis ce jour-là, je me dis OK, bon, il reste un peu plus de 400 kilomètres. Il est 2h du matin, tu repars et ce soir tu seras à Istanbul. C'était ambitieux. Hein. 400 kilomètres, mais je l'avais eu déjà fait cette distance. Sauf que manque d'expérience, etc. Je me dis, je suis capable de le refaire, quoi. Ou alors manque de lucidité aussi. Bref. Du coup, j'abandonne les choses qui me servaient à passer la nuit. Déjà que j'avais pas grand chose. Donc j'abandonne ma couverture de survie, j'abandonne mon sursac de couchage, j'abandonne deux trois autres trucs histoire de m'alléger. Je me dis de toute manière, j'en aurais plus besoin. Ce soir, je serai à Istanbul. Et je repars en me disant, allez, cette journée, tu donnes tout. Et en effet, je vais tout donner. Je vais rouler. Je passe en Turquie. Je rentre en Turquie sur les coups de midi, 1h. Et faut voir à peu près la forme de la Turquie. On est sur la péninsule européenne de la Turquie. Et du coup, je vais en direction de Istanbul. Et comme on avait pour consigne de ne pas emprunter une grande route au risque d'être éliminé, il y avait une grande route pour arriver jusqu'à Istanbul, j'avais pris le parti de directement bifurquer au nord en direction de la mer Noire et longer la mer Noire par le nord. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, je me suis retrouvé avec un parcours beaucoup beaucoup plus vallonné, les montagnes russes, et ça montait 500 mètres, 1 kilomètre, et à chaque fois je les passais à l'injection, et une, et deux, et trois, et quatre, et ainsi de suite, sur des routes qui rendaient pas, c'était gravillonneux, etc. Et puis la journée passe. Bien sûr, Istanbul se rapproche, mais moi, mes forces, ça me nuise. Et en fin de journée, je me rends compte qu'il reste quoi? Il reste 50, 60 kilomètres pour arriver à Istanbul. Et je me rends compte surtout de ma vitesse. Je commence à rouler à 10, 15 kilomètres heure. Et je suis plus du tout efficace. Et 10, à 10, 15 kilomètres heure, 50 kilomètres, c'est vite 5, 6 heures de vélo. Et je m'apprête à rouler à nouveau dans la nuit. Et je suis pas paré à cette éventualité-là. Et je suis pas paré au fait qu'il faille à nouveau que je m'arrête pour dormir, etc., etc. Et là, j'ai tout qui lâche. J'ai tout qui lâche dans un village. Je commence à pousser mon vélo, je le pousse en marchant à côté, et j'arrive dans un village. Comme j'ai plus de quoi charger mon GPS, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, j'ai plus de communication avec Amandine qui est mon moteur depuis un moment. Amandine, elle m'attend à Istanbul. Parce qu'elle a pris l'avion pour ça. C'était la première fois qu'elle avait pris l'avion, qu'elle prenait l'avion, et elle se retrouve à Istanbul toute seule. Et moi, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de la retrouver et d'arrêter ce calvaire, parce que je vis un véritable calvaire. Et pour moi, il est plus possible de continuer, c'est plus question de continuer, et j'ai décidé à ce moment-là d'abandonner. Il reste 50 kilomètres. Je suis en deuxième position. Il y a des jeunes qui sont là sur le bord de la route, je m'adresse à eux et tout, et puis de fil en aiguille, ils m'offrent un café dans un bar, etc. On partage un café et ils me font un partage de connexion. Entre temps, je peux recharger dans ce café mon téléphone, et avec ce partage de connexion, oui, parce qu'ils m'avaient coupé ma ligne aussi, ils m'avaient coupé ma ligne de téléphone, parce que comme on est dans d'autres pays, on se retrouve avec un hors forfait de dingue, et à un moment ils nous disent ouais, non mais là à un moment faut arrêter les conneries, quoi. Et du coup ils me font un partage de connexion et je réussis à contacter Amandine, et je prends les dernières forces et la dernière conviction que j'ai, et je lui dis écoute Amandine, je vais prendre je sais pas quoi, mais j'arrête là, je m'arrête. J'arrête tout là, je veux plus continuer, je vais prendre un bus, je vais prendre un taxi, je vais prendre quoi que ce soit, mais je te rejoins, je veux pas continuer, je peux pas continuer. Et puis forcément, elle était avec les organisateurs, elle était avec Anna, elle était avec Mike et elle était avec Josh qui était arrivé depuis quelques heures. Et puis Amandine se met à pleurer en me disant mais si tu peux pas abandonner, ça avait été un sacerdoce aussi pour elle, hein, on a des enfants, ça a été un sacerdoce pour elle de s'occuper de tout ça et de me voir partir dans les préparations, etc., etc. Et puis de se retrouver à Istanbul toute seule là-bas, et puis moi qui me retrouve en deuxième position, prêt à abandonner, c'était inimaginable. Et puis elle se met à pleurer en me disant mais repose-toi, t'as le temps, le troisième est 250 km derrière toi, donc repose-toi, prends le temps de te reposer et tu repartiras, et etc. Et puis elle me passe Josh qui me dit qu'au final l'année dernière lui avait fini deuxième et qu'il avait été dans le même état pour sa toute première expérience et qu'il avait appelé sa mère aussi en pleurant qu'il voulait arrêter et tout, et puis au final il avait fini lui l'année d'avant deuxième derrière Allegaert. Au final on raccroche et puis je comprends que je suis en train de faire une connerie en voulant abandonner. Après tout ça, après autant de kilomètres, après plus de 4000 kilomètres à vélo, je pouvais pas me retrouver à abandonner à 50 kilomètres de l'arrivée, quoi. Et du coup, ce soir-là, je décide de repartir. Alors qu'il aurait fallu que je m'arrête pour me reposer, etc. Mais je décide de repartir. Je me dis, je vais lui faire la surprise d'être à Istanbul et d'arriver à Istanbul avant demain matin. Et je repars. Toujours aussi lamentablement à 10 moins de 10 km heure même, j'ai envie de dire, et je fais pas plus de 1h30 ou 2h et je me retrouve complètement fatigué, crevé, à m'allonger, à chercher, même plus à chercher ou m'allonger, à m'allonger dans le caniveau sur le bord de la route. Et là intervient un moment mystique, et quand je le raconte, je pense que beaucoup de personnes ne me croient pas, et pourtant je peux assurer que c'est quelque chose de véridique. Je m'allonge sur le bord de la route et je vais rester là pendant 1 heure, 2 heures et quasiment inconscient. Et la lune, à un moment, va se dévoiler des nuages qui étaient présents. Et je vais lever la tête et je vais me rendre compte que je suis allongé à côté de deux gros chiens de style patou. Et là, je vois qu'ils sont inoffensifs, qu'ils bougent pas. Et du coup, j'ai pas sur le coup le courage de repartir, pas en la force de me relever, de remonter sur mon vélo. Et je reste là. Et il se passe encore plusieurs minutes ou plusieurs heures, je sais pas combien de temps exactement je serais resté là. Et à un moment, je reprends mon courage à deux mains, je remonte sur mon vélo, et ces deux gros chiens sont toujours là, et ils s'assoient, et ils me regardent partir. Et ça tranche réellement cette situation avec le contraste des autres participants qui raconteront plus tard qu'ils ont eu des problèmes avec les chiens, qu'ils se sont fait attaquer, qu'ils ont eu des chiens qui les ont coursés, etc. Et moi, j'ai dormi à 2-3 mètres de deux gros chiens blancs. Et au final, qui m'ont rien fait, quoi. Et du coup, je repars, toujours aussi lamentablement, mais je repars, et puis je me rapproche de Istanbul, le jour se lève, et c'est, comme le jour se lève, c'est une nouvelle journée. Et, je franchis les dernières côtes qui me ramènent sur le Bosphore. Et j'arrive sur le Bosphore, sur les coups de 7h30 du matin, voilà, et Amandine était là avec Anna, avec Josh, et ils m'attendaient. Et puis, se clôt ma première transcontinentale. Voilà.
Alors, je cherche, mais je crois qu'il ne m'est jamais arrivé de parler aussi peu pendant un épisode.
Ah bah alors, excuse-moi.
Non, parce que c'est moi qui te remercie. Déjà parce que je suis malade.
Ah bah d'accord.
Et puis en plus, c'était totalement captivant. Donc bravo pour ta capacité à raconter une histoire de manière aussi magistrale.
Bah écoute.
Qu'est-ce que tu as appris au terme ? Alors déjà, d'accord, t'es arrivé, mais... Mm-hmm. Je sais que c'est peut-être difficile à expliquer ou à résumer en quelques mots, mais... ça t'a fait quoi de retrouver Amandine à ce moment-là, après toutes ces épreuves, et qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux?
Un soulagement. C'est l'euphorie que l'on ressent à ce moment-là. Elle est indescriptible. C'est ce que j'ai pu raconter à toutes les personnes qui se souhaitent se lancer là-dedans. C'est que on est dans un état second. Donc Amandine, c'était mon moteur à ce moment-là. C'était mon moteur. Ce jour-là, je repartais pas sans elle. Sans elle, le lendemain, la veille, je repartais pas. Etc. Et moi, c'était la fin de tout, la fin de toute une année de préparation et la fin de tout en fait. Pour moi, à l'arrivée, clairement, et je l'ai eu dit à plusieurs reprises à ce moment-là. Pour moi, je ne repartirai plus dans ce genre de choses-là. J'avais été au bout de ce que j'avais de moi-même, de ce que j'avais à donner, et j'avais vécu des moments tellement difficiles que pour moi, je ne repartirai plus dans ce genre d'aventure.
Et finalement ?
Et finalement, je suis reparti.
Pourquoi ?
Pas pour les bonnes raisons.
Aïe.
Pas pour les bonnes raisons. C'est en 2016, on est rentré en France, etc. L'aventure n'était pas finie malgré tout. Après mon retour, j'ai fait des œdèmes à plusieurs endroits. J'ai eu gonflé d'un peu partout. J'avais mis mes reins en difficulté. Le médecin me l'a dit. Physiquement, j'avais été très très loin. Donc il a fallu se réparer. Et quand t'es quelqu'un d'inconnu qui finit une transcontinental race en deuxième position, tu suscites une forme d'intérêt, et il y a de l'intérêt qui se crée autour de toi. La photo qu'on a fait à l'arrivée, elle témoigne un petit peu de tout. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent, où je suis dans les bras d'Amandine, etc. Donc il y a beaucoup d'émulation qui se crée autour de ça. Et comme tu n'as pas d'expérience et que tout le monde le sait, on se dit toi, l'année prochaine, tu vas la gagner. Tu y vas, mais faut que tu y retournes et tu vas la gagner. Tu y retournes et il faut que tu y retournes, tu vas la gagner. Puis au final, à force de te le dire, tu te dis ouais, ils ont peut-être raison. Hein. Je suis peut-être capable d'aller la gagner. Faut que j'y retourne. Je suis capable d'aller la gagner. Et du coup, c'est comme ça que tu y retournes. Et comme je te l'ai expliqué, comme je l'ai dit au début de ce podcast, j'aime la compétition, mais je suis, à mon avis, certainement pas compétiteur dans l'âme. Et j'y suis retourné avec les mauvaises raisons. Simplement avec la soif de vaincre et la soif d'en découdre avec l'adversité, avec les autres. Et en ayant oublié la raison première pour laquelle j'étais parti. C'est-à-dire la découverte, le dépassement de soi, une aventure personnelle et simplement découvrir de nouveaux horizons. Et du coup, je suis parti en 2016 et ça s'est fini en scratch à 800 km de l'arrivée. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que j'avais déjà, pendant les préparatifs de 2016, scratché tout ce que j'avais entrepris. J'avais scratché ma BTR où c'était Paul Galéa qui avait gagné. J'avais, encore une fois, par souci d'adversité, je comprenais pas qu'il puisse être devant et je m'étais mis dans un état où je comprenais pas, alors que je roulais tellement fort, que quelqu'un puisse être devant moi. Donc,
oui, mais encore une fois, Paul roule très très fort.
Paul roule très très fort, exactement. Et je le saurais, je le comprendrai après, etc. Donc, Paul roule extrêmement fort. Il est très costaud, Paul. Mais voilà, j'étais rentré dans une notion de compétitivité qui ne me convenait pas. J'avais donc scratché tout ce que j'avais entrepris en préparation pour la transcontinentale, à tel point que une quinzaine de jours de la transcontinentale, je m'étais dit non mais tu participes pas, tu rentres pas, tu vas pas, je n'y vais pas, ça sert à rien, ça me correspond pas. Et puis j'avais fait malgré tout une introspection de moi-même, etc. Et puis j'avais compris que c'était cette adversité qui ne me convenait pas et j'étais quand même parti sur la transcontinentale. Mais de fil en aiguille, j'avais réussi à tenir un jour, deux jours, trois jours. J'avais tenu une semaine en ne rentrant pas dans cette compétitivité. Et malgré tout, en étant compétitif, puisque j'étais à ce moment-là, au moment de mon scratch, j'étais en quatrième position, donc ce qui est tout à fait honorable, hein, face à James Hayden, face à cette époque-là, il y avait même Josh Hibbett avait même abandonné. Enfin bref, je sais plus qui était devant moi, mais il y avait du beau monde. Il y avait Allegaert qui était devant moi d'ailleurs aussi. Donc voilà, j'étais compétitif et un soir. Pendant la course, j'avais eu besoin de m'arrêter et de m'arrêter tôt. Et je m'étais arrêté sur les coups de 7h30, 8h. Et en discutant avec Sylvain Perreal, qui m'avait à nouveau suivi pendant la préparation, il me dit, il n'a pas eu les bons mots. Je pense qu'il n'a pas eu les bons mots. Il m'a dit, ouais, je te sens pas avec la niaque. Tu t'arrêtes, mais on sent pas que t'as envie d'aller gagner, etc. Et je lui explique ce soir-là avec des mots forts et certainement avec pas mal d'agressivité que je suis crevé, que c'est pas lui qui pédale, que j'ai besoin de m'arrêter, etc. Et du coup, je m'arrête toute la nuit et je repars le lendemain sur les coups de 9h ou 10h, un truc comme ça. Donc, c'est un arrêt stratosphérique. Et comme je me suis refait la cerise et comme je suis orgueilleux et comme j'ai envie de lui prouver que j'ai la niaque, etc., je vais repartir toute la journée et puis je vais faire une nuit blanche dans la foulée. Et je vais me pousser à tel point que je vais en avoir des hallucinations, que je vais manquer de me mettre au tas, etc. Mais je vais rouler, je vais rouler, je vais rouler, je vais rouler, et je vais rouler et je vais remonter à cette fameuse quatrième position. Et j'arrive du coup au Monténégro, au checkpoint. Et là, il aurait fallu que je m'arrête pour dormir quelques heures, sauf que James Hayden, lui, vient d'arriver il y a quelques heures, il est en troisième position, et je me dis, s'il repart, faut que je reparte. Et là, dans ces cas-là, je rentre dans un esprit de compétition, dans un esprit d'adversité, je suis plus dans cette aventure personnelle, et on est reparti dans quelque chose qui ne va pas me convenir. Et quelques kilomètres plus loin, une soixantaine de kilomètres plus loin, complètement détruit par la nuit que j'ai passée, par le fait que j'aurais eu dû dormir et que je l'ai pas fait, eh ben, je vais m'arrêter et je vais faire du stop au bord de la route. Et encore une fois, bonne étoile qui doit me suivre. Je vais me retrouver avec des Français qui vont s'arrêter et qui vont me prendre en stop et m'emmener jusqu'à l'aéroport à Podgorica. Voilà.
Putain, les Français sont partout, c'est dingue.
C'est dingue.
Ouais, c'est dingue.
Et du coup, je vais prendre un avion et je vais retrouver Amandine dans le détroit des Dardanelles à l'arrivée. Et ce sera la fin de l'aventure transcontinentale de 2016.
Et est-ce que c'était la fin de l'aventure transcontinentale tout court ou est-ce que tu as repris part à une épreuve, à une édition?
J'ai repris part à d'autres épreuves par la suite.
Ouais.
Déjà, je me suis posé, j'ai pris le temps de récupérer, d'analyser et de comprendre, de me comprendre surtout. Savoir se connaître, ça c'est l'une des choses les plus importantes quand on fait ce genre de choses. Et du coup, j'ai compris tout ce que j'ai expliqué au début, que j'étais pas compétiteur dans l'âme, que j'étais avant tout dans un partage, que j'avais besoin de vivre des aventures avec des grands A et des aventures personnelles de découverte, d'échange, de partage, et que si résultat il devait y avoir, c'est quelque chose que je ne devais pas aller chercher. Et du coup, en 2017, j'ai voulu prendre part à autre chose. Je devais à la base participer à la transcontinentale avec quelqu'un en binôme. Voilà, j'étais vraiment dans un autre état d'esprit. Et au final, ce quelqu'un, pour diverses raisons, n'a pas pu participer à la transcontinentale. Donc, je me suis retrouvé au mois de mai, après une blessure suite à une chute et un arrêt d'un mois de vélo. Au mois de mai, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire sans objectif, sans rien. Et puis, il rouvrait des places sur la Northscape 4000. Et je me suis dit pourquoi pas aller jusqu'au Cap Nord. Je me suis dit va au Cap Nord, alors que je m'étais arrêté pendant un mois suite à une blessure au genou après une vélo-kyo à laquelle j'avais participé avec Cyclosportissimo. Je m'inscris, mais le but c'est d'aller au Cap Nord. J'avais du temps, j'étais au chômage à ce moment-là. Je me suis dit si tu fais 200 km par jour, il te faudra tant de jours, tant pis, tu y vas, le but c'est vraiment d'aller au Cap Nord. Et puis je me suis préparé comme ça, à partir de mai, et le départ était au mois de juillet, simplement avec l'esprit de me dire je vais au Cap Nord. Et puis je crois que je me suis tellement bien préparé que j'ai fait une grosse partie de la course en tête et j'ai participé du coup à cette Northscape où j'ai fini en deuxième position. Avec du plaisir de bout en bout. Je suis tombé malade pendant la Northscape, il a fallu que je m'arrête, etc. Mais j'ai pris le temps de me comprendre, j'ai pris le temps de me soigner, j'ai pris le temps de rouler avec simplement l'envie de me faire plaisir. Et j'arrive sur la dernière matinée dans le fjord au Cap Nord et tout simplement, je prends du plaisir et je roule avec plaisir. Je crois que j'ai eu le smile de bout en bout ça reste mon expérience la plus aboutie en termes de plaisir. Voilà, c'est cette Northscape. Donc j'ai participé en 2017 à la Northscape et du coup j'ai voulu reparticiper à la transcontinentale. Je me suis dit il faut y retourner sur ce transcontinental pour au moins boucler la boucle, quoi, faire ne pas rester sur cet abandon de 2016. Donc en 2018, je me suis inscrit à la transcontinentale avec l'émulation de Thomas Dupin, un de mes potes qui est aussi fait aussi partie du team Cyclosportissimo. Et du coup, je suis parti sur la transcontinentale en 2018 avec pareil pas mal de pépins, mais toujours dans cette optique simplement d'aller au bout. Les pépins que j'ai eus m'ont complètement extrait de la notion de compétitivité, simplement parce qu'au bout de 2 heures de course, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais mon moyeu qui avait foiré et je me suis retrouvé avec la roue complètement en avec du jeu et tout. Il a fallu que je m'arrête pendant 10-12 heures pour le lendemain réparer mon moyeu, changer ma roue, etc. Donc dans les premières heures de course, tout le monde est au taquet, ça roule très fort. Je me suis retrouvé avec 300-400 km dans la vue, très très loin, aux alentours de la 2e ou 3e position, je sais plus exactement. Et là, je me suis dit, eh ben là, t'es clairement hors compétition, donc le but, c'est fais-toi plaisir, roule pour toi, et je me suis, pareil, fait plaisir, avec d'autres visions, parce que la transcontinentale reste impitoyable, parce que elle a des latitudes qui font que il fait super chaud, que ça monte, que c'est très très dur. Et au final, de fil en aiguille, j'ai roulé ma transcontinentale, voilà, en me faisant plaisir. J'ai été performant jusqu'à remonter jusqu'à la 5e position en rentrant du côté de la Pologne. Mais voilà, j'étais pas dans cette optique de compétition. J'étais compétitif malgré tout parce que je pense que je dois avoir le physique et je sais me préparer pour ça, mais c'était vraiment pas mon objectif premier, quoi. Voilà.
Ah, tu me coupes l'herbe sous le pied, quand tu arrêtes, je sais même plus quoi dire, parce qu'habituellement, tu sais, je rebondis d'une phrase à une autre, d'une expression.
On me dit souvent que je suis un peu trop prolixe, alors.
Ah non, bah là, non, moi, c'est la fête, hein, aujourd'hui, hein, tu sais, un mec qui fait l'interview toute seule, d'ailleurs, tout à l'heure, quand t'as parlé pendant 45 minutes tout seul, j'étais pas là.
Tu étais parti, c'est ça?
Ouais, parce que je suis en train de jouer à Call of Duty en ce moment. Donc je suis allé faire une mission. Non, je rigole, évidemment. Parce qu'on m'entend tousser, évidemment. Et l'année prochaine, tu fais quoi? 2020, tu m'en as parlé un tout petit peu. Tu retournes, tu fais quoi?
Alors, 2019 a été une année blanche.
Pourquoi? Laisse-moi rebondir un petit peu pour une fois. Laisse-moi faire mon job. Pourquoi? Année blanche.
Pourquoi? Eh ben parce qu'on a monté notre société. On a monté notre société. On organise des séjours aventures à vélo. Donc pour le coup, après ma période de chômage, j'ai passé un brevet d'état en cyclisme pour pouvoir faire de l'encadrement. Donc l'esprit de notre boîte, Ultra Bike Adventure, comme elle s'appelle, vise à emmener les gens à découvrir l'aventure à vélo. Ouais. Alors pour des personnes qui auraient un petit peu peur de partir seule, se dire dormir dehors, se dire oui mais qu'est-ce que je fais, rouler de nuit, etc., etc., etc. Il y a plein de craintes autour de cette pratique. Et ben nous on les emmène. On a déjà mon expérience. En tant qu'encadrant, et puis on a notre système de bivouac qui permet de véhiculer le bivouac. Donc Amandine, elle, transporte le bivouac avec notre van assistance, et on a une remorque cuisine qui nous permet de faire du bivouac, de monter le bivouac et d'accompagner les gens dans ce genre d'aventure là. Voilà.
Et c'est pratiquement le Tour de France en fait.
Avec l'esprit moins Tour de France, c'est-à-dire que nous on va pas à l'hôtel le soir.
Sans les casquettes, d'accord.
Sans l'hôtel le soir, etc.
Ok.
On reste vraiment en mode bivouac.
Quand même, oui, quand même.
Ouais, ouais.
Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Et du coup, pour 2020, je mettrai tous les liens dans les notes et je mettrai tout ça avec l'épisode, comme ça les auditeurs pourront aller explorer et le cas échéant te contacter pour prendre part. Mm-hmm. Et 2020, qu'est-ce que tu vas faire?
Alors 2020, le vélo m'a manqué. Le vélo m'a manqué aussi bien moralement que physiquement. C'est-à-dire que cette année, j'ai participé à aucune épreuve et puis le montage de la boîte a pris du temps et j'ai fait un peu plus d'encadrement, mais du coup, c'est du vélo un peu moins poussé. Disons que concrètement, j'ai dû faire 3000 km à peu près, là où j'ai été entre 20 et 25 000 par an les autres années. Donc c'est considérer que c'est une année quasi blanche. J'ai pris beaucoup de poids.
C'est-à-dire
que je t'ai évoqué 55 kilos hein, pendant la transcontinentale.
Oui.
Je suis monté à 75 kilos.
Ah, mon cochon.
Eh ben oui, tu peux le dire.
Ah ben, dis donc,
bien nourri.
On mange bien chez maman. Hein.
On mange bien. Hein. Tu pourras venir manger quand tu viendras sur Annecy.
Ah, mais avec joie. Avec joie.
Et du coup, en 2020, je me suis réinscrit à la Northscape parce que parce que j'ai vraiment de bons souvenirs là-bas. Et j'ai envie de revoir les rennes, j'ai envie de rouler avec les odeurs du nord. Et voilà, j'ai envie de vivre ça. Et puis malgré tout, pour notre activité Ultra Bike Adventure, bah, si Ultra Bike Adventure existe, c'est parce que j'ai fait ce genre d'aventure. Donc voilà, je me devais d'y retourner et j'ai envie d'y retourner parce que là. Je le vois même sur ma reprise d'entraînement. Là, j'ai repris du coup à rouler assidûment, etc.
Ouais.
Bien que ce soit très dur, après une année quasi blanche.
Avec 15-17 kilos
exactement.
En plus, c'est terrible.
C'est une horreur. L'école, ouais. J'y vais à reculons. Mais je vois que au final, le physique suit. Et parce que l'esprit suit. En fait, je me sens d'une certaine fraîcheur mentale et physique. Ouais. Donc, ça me permet de. Je vois mes entraînements, je pousse beaucoup plus. Les efforts, je les fais de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus affirmée et sans lassitude. Donc, ça sous-entend de belles perspectives pour 2020.
Ça veut dire quoi quand tu t'entraînes? Ça veut dire que tu pars en moyenne pour combien? Qu'est-ce que tu fais?
Alors, je reprends, donc c'est très très dur. Je vais dire que là, j'ai du mal à passer les 100 km. Hein.
Ah, donc, carrément.
Ouais.
Moi, attends, 100 km, parce que tu habites à Annecy. Alors, je suis désolé de te le rappeler, mais 100 km à Chartres ou 100 km à Annecy, c'est pas les mêmes kilomètres.
Ouais, sauf que là, je suis.
Tu fais 4 fois le tour du lac en fait.
Et voilà, c'est en ce moment c'est plutôt du plat. Hein. J'ai fait mes deux premiers cols hier.
T'as fait lesquels?
Je suis parti en direction des Aravis. Alors, je suis pas monté jusqu'aux Aravis. Je suis monté à Saint-Jean-de-Sixte. Ça m'a permis de monter à 1000 mètres et ensuite redescendu sur la vallée du Born et jusqu'à la Roche-sur-Foron et remonté le col des Vires.
D'accord.
Voilà, donc c'est des petits cols qui montent à entre 800 et 1000 mètres. Ouais. Mais pour le moment, c'est selon ma capacité. Mais je sens que pas à pas, ça va de mieux en mieux. Je commence un petit peu à décoller au niveau du poids, etc. Voilà, ce qu'il faut, c'est banaliser les choses. Donc, pour répondre à ta question, en ce moment, c'est des sorties de 50, 70, 90, 100 km. Et de fil en aiguille, je vais passer 120, 150. Le but étant de banaliser les kilomètres.
Ouais.
Et surtout de choper le coup de pédale. Je reste performant, je le sens, je le sais, et je pense que je ne sais rouler que comme ça. Donc là, ma sortie d'hier faisait 92 km avec 1100 mètres de dénivelé, mais je sors quand même à 28,7 de moyenne. Donc je me tape dedans, mais je sais qu'à un moment je vais retomber dans des zones d'endurance et tout en continuant à rouler vite et à rouler de plus en plus vite. Quoi. Mmh. Voilà.
Bah surtout qu'en ce moment tu peux pas monter dans les grandes stations parce que à partir de Saint-Jean, le col des Aravis et le Grand Bornand la Colombière sont fermées probablement.
Ouais, les Aravis sont ouverts mais la Colombière est fermée et puis là même à Saint-Jean-de-Sixte, il y avait la neige hier sur le bord de la route et je me suis même pris la neige en rentrant depuis le col des Vires. Donc
tout fout le camp.
Voilà. Tout fout le camp.
Est-ce que tu peux développer un petit peu la notion de banaliser, s'il te plaît?
Ouais.
Parce que ça, c'est un truc hyper important que je retrouve chez plein d'autres athlètes, qui sous-entend la notion de se préparer, mais que quand tu arrives dans une situation difficile, en fait, tu n'es pas surpris parce que tu l'as déjà vécu. Et somme toute, c'est banal. Donc du coup, tu as employé l'expression parfaite, banaliser les efforts et les difficultés.
C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, banaliser les kilomètres, alors il y a plein de choses à banaliser en fait. Hein. Il y a les kilomètres, il y a l'effort, il y a le fait de dormir dehors, il y a le fait de vivre une aventure tout simplement. Alors banaliser les kilomètres, c'est un terme que j'ai utilisé très tôt. C'est simplement que je t'évoquais au début mes BRM de 200 kilomètres où je finissais complètement rincé. Ce 200 kilomètres une fois bien préparé, ça devient une sortie de récupération, je crois, tout simplement. Où la veille tu t'es enquillé 300 ou 400 kilomètres, et puis le lendemain, bah, en tapant un petit peu moins dedans, en faisant un petit peu plus plat, bah, tu vas faire. Allô?
Allô, Alex. Ça y est, on est de retour avec le bon micro.
Super.
Voilà. Donc, quand on a été coupé avant la coupure d'électricité due aux travaux chez moi actuellement, tu me disais, tu fais 300-400 la veille d'un 200, tu vas tranquille, et puis voilà, c'est ça?
C'est ça, ouais. Bon, ça, c'est ce que j'appellerais la banalisation des kilomètres. Mais le souci, c'est que faut pas. C'est difficile d'annoncer des kilomètres. Parce que c'est pas retranscriptible à chacun. Je veux dire, une personne qui aurait un moins gros niveau, bah, va pouvoir faire de l'ultra à partir de 100 ou 150 kilomètres. Voilà. Donc annoncer des kilomètres, c'est trop restrictif. C'est plutôt annoncer une journée de vélo. Voilà. C'est toutes ces. Et puis après, il y a toutes les petites choses autour du fait de pédaler. Hein. C'est dormir dehors. Manger, apprendre à ce que l'on doit manger, etc. Donc toutes ces choses-là doivent être testées avant. C'est ce que j'appelle moi la banalisation.
D'accord. Donc déjà, ouais, ne pas se donner un repère par rapport à tel ou tel athlète, mais faire en fonction de ses capacités, faire en fonction de ses envies également. Et puis surtout être capable d'enchaîner les jours, parce que faire un 200 bornes mais être complètement déglingué le lendemain, ça sert à rien. Il vaut mieux faire à la limite 100, mais être capable d'enchaîner à la fois physiquement mais aussi moralement, parce que c'est quand même assez demandeur d'enchaîner chaque jour. C'est un petit peu monotone quand même des fois.
Ouais. Après là, on rentre dans des notions.
Oh.
C'est-à-dire que si on regarde... Tu m'entends ?
Oui. Alors attends, on va juste être coupé un court instant, parce que là, comme la box n'avait pas redémarré, j'étais en partage de connexion et ça marche pas forcément top. Je repasse sur ma box et on va peut-être être coupé un instant. Eh ben non. Tu es là ?
Oui, allô?
Ouais, ça y est. Donc, donc, on repart sur quelque chose de... Tout va bien. T'es là?
C'est bon?
Ouais, je
suis là.
Ouais. Donc, qu'est-ce que tu disais?
Donc, je disais que oui, il fallait banaliser tous les autres aspects, que sont la nourriture, que sont le sommeil, que sont le fait de dormir dehors, etc. C'est des choses qu'il faut tester. Pas mal de personnes me posent la question, oui, alors toi, tu prends quoi? Il y en a qui prennent une tarpe, il y en a qui prennent une petite tente, il y en a qui prennent un bivy bag, il y en a qui prennent un matelas, il y en a qui prennent des sacs de couchage, etc. Je dis oui, en effet, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Moi, le truc qui fonctionne pour moi, c'est le hamac. Donc, je l'ai découvert au fur et à mesure. Je crois que je reviendrai en arrière pour rien au monde. Je dors trop bien dans mon hamac. C'est quelque chose que j'ai fait tester à une personne que je coachais l'année dernière. Lui a trouvé ça moyen parce qu'il avait froid. Il avait froid dans le hamac. J'ai envie de dire, il n'y a pas parole d'évangile là-dessus. Voilà.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment tester chacun ce qui fonctionne pour chacun. Quoi. Voilà.
On pourrait en rester là. Je pense que c'est une parole pleine de sagesse et qui évite bien des déviances. Dis-moi, tu m'as dit que tu devais partir à 11h. Il est déjà 11h12 là. Ça va pas être gênant?
C'est 11h30 qu'on attaque le boulot. Mais...
D'accord. Et ben, de toute façon, on pourrait encore parler, on pourrait repartir encore pendant une heure. Mais il me semble déjà qu'on a bien avancé. Et ben, tu sais quoi, je vais poser mon micro et je vais te laisser avec la minute de solitude. Et donc, je vais te laisser passer le message de ton choix. Tu dis ce que tu veux. Et puis, on essaye de se voir la semaine prochaine à Annecy. Merci, et Alex.
Avec plaisir.
Je te laisse.
Merci. Le vélo, c'est un élément de partage où on rencontre beaucoup de monde. Et on se fait des amis, etc. Et cette minute de solitude, eh ben, elle est vraiment présente. Tout simplement, je vais être moins gai. Simplement, j'ai perdu un pote la semaine dernière sur la route. Et je voulais lui rendre hommage. Parce que c'était un gars génial. Je le reverrai plus. Je repartagerai plus de sortie avec lui. Et ça, c'est terrible. Il laisse une femme avec deux enfants. Alors, Thibaut, dis-toi qu'on pense à toi et on sera toujours avec toi. Et je voudrais dire à tous ceux qui peuvent écouter ce podcast, faites attention à ce que vous faites sur la route, faites attention à comment vous roulez et dites-vous que le danger peut surgir de n'importe où. Et que tout ça ne reste que du vélo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Le but étant de prendre du plaisir, dans tous les cas. Ah oui, c'est une vraie minute de solitude. On se sent vraiment seul. Il ne se passe plus rien. Bon, pour le changement de conversation, sinon Amandine est en train de faire les cadeaux de Noël pour les enfants. Je pense qu'ils vont être gâtés. Et puis, sinon, on va pas tarder à aller bosser. Bon, sinon, vous pouvez aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur Ultra Bike Adventure pour des aventures que vous souhaiteriez faire, hein, à travers la France, l'Europe ou même à l'étranger. On peut aller jusqu'au Maroc, etc. C'est des super pays, c'est des super paysages. Donc, surtout ne pas hésiter. Voilà. Je sais pas comment ça se passe au niveau du raccrochage. Bon, je vais raccrocher alors. Au revoir.